Μάχη Άντρα και του Ισμαήλ Κασέρ Ριαντάλ. Και εσύ το Ταλμά και τη
Σάκη.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de Parole aux auditeurs, l'émission 100% interactive de Radio Capi, une tribune d'échange qui vous permet, surtout à vous auditeurs, de pouvoir vous exprimer sur des faits d'actualité. Ce jeudi, nous ouvrons une série d'émissions consacrées au genre à travers la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution adoptée en octobre 2000 qui préconise la participation de la femme dans la prise de décision, dans la résolution, la prévention des conflits et dans la consolidation de la paix. Malgré que cette résolution soit peu connue, elle est considérée pour les ONG de défense des droits de l'homme comme la première résolution de l'ONU à porter sur les femmes et le genre avec autant de vigueur et devient un instrument par excellence de plaidoyer. Et aujourd'hui, dans Parole aux auditeurs, nous allons échanger sur les dispositions de la résolution qui exhorte aux États membres et les parties en conflit à prendre des mesures concrètes de protection des violences faites sur le genre. La question sera, comme vous le savez, chaque émission a une question. Selon vous, que faut-il faire pour mettre fin aux différentes formes de violence sur la femme et la petite fille? Nous avons invité pour vous Madame Joséphine Galula. Elle va arriver d'un moment à l'autre dans notre studio. Titi Mpoutou, Tati Mapoukou, ainsi que Nadine et aussi Nicole Ngaka sont à la réalisation de cette émission. Et à la mise en onde, nous avons Willem Lungamba.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Encore une fois, bonjour, nous allons parler avec vous, chers auditeurs, du genre à travers la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU qui préconise, comme je l'ai dit dans l'introduction, la participation de la femme dans la prise de décision et dans la résolution, la prévention des conflits et dans la consolidation de la paix, avec des dispositions permettant, en fait, favorisant la protection des civils, la participation des femmes sur un pied d'égalité, des droits de l'homme, le maintien de la paix, soutenir les initiatives de paix, aussi lutter contre les violences sexistes. Et aujourd'hui, nous avons constaté le mois dernier, au courant de ce mois, qu'il y a eu plusieurs manifestations ici à Kinshasa, des manifestations des ONG de défense des droits de l'homme en vue de vulgariser cette résolution. Nous avons déjà en ligne Madame Séraphine Malala. Bonjour Madame.
Bonjour.
Vous êtes activiste des droits de l'homme. D'ailleurs, plusieurs fois, nous avons pu vous remarquer ces manifestations pour la vulgarisation de la résolution 1325. Aujourd'hui, nous parlons plus de la disposition pour lutter contre les violences faites sur le genre. Quand vous êtes dans le domaine, quand nous parlons de genre, qu'est-ce que cela veut dire?
Oui, le genre reflète les différences sociales et puis les relations sociales. Quand on parle du genre, on voit les hommes et les femmes. Donc ces différences-là, c'est entre les femmes, c'est pour les femmes et pour les hommes. Et puis les relations sociales-là, c'est pour les femmes et pour les hommes. Donc les genres impliquent les deux sexes.
Et aujourd'hui, nous parlons des violences, comment réduire ces violences. Est-ce que vous avez constaté qu'effectivement, il y a des violences faites sur la femme et la petite fille?
Oui, il y en a beaucoup. La femme est vraiment violentée sur tous les plans, à tous les niveaux. Mm-hmm. Ainsi que nous, en tant qu'activistes de droits de l'homme, nous nous battons pour que nous puissions réduire ou mieux éradiquer ces violences. Parce que la femme en souffre beaucoup. Surtout mm-hmm. avec les conflits armés, la femme est vraiment victime. Donc les violences sont utilisées comme une arme. Le viol est utilisé comme une arme de guerre. Mm-hmm. Alors la femme est violentée sur tous les plans. Toutes les violences sexuelles dans son plein dans les zones post-conflictuelles. Alors, nous voulons vraiment, en tant qu'activistes des droits de l'homme, nous y mettre pour que nous puissions réduire toutes ces formes de violences-là.
Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples des cas de violences qui sont souvent récurrents?
Il y a les violences sexuelles, il y a les violences domestiques, il y a les violences domestiques et conjugales, Il y a des violences économiques, il y a les violences traditionnelles, il y a des violences institutionnelles. Et il y en a plusieurs. Je n'ai cité que les quelques cas là.
Vous êtes dans une structure, une ONG de promotion de défense des droits de la femme. Qu'est-ce qui est mis en place pour pouvoir en fait réduire ces violences?
Dans notre structure, en fait, dans le réseau Action Femmes, nous avons mis une clinique juridique pour essayer de recevoir toutes les femmes qui sont violentées et toutes les victimes aussi des violences sexuelles. Nous avons mis en place une clinique juridique, nous écoutons les victimes, nous les assistons judiciairement, nous les accompagnons sanitairement dans des différents centres que l'UNFPA a mis en place pour essayer d'aider les femmes qui sont victimes surtout des viols.
En attendant, Madame Séraphine, plutôt Madame Joséphine Galula, qui est notre invitée, elle est en train de venir dans ce studio. Elle aussi, elle est tombée dans les embouteillages parce qu'à Kinshasa, vraiment, il y a des bouchons un peu partout. C'est devenu difficile pour pouvoir circuler. Et en attendant la venue de Madame Joséphine Galula, nous vous gardons, Madame Séraphine Malala. Je voudrais aussi dire à nos auditeurs que s'ils veulent vraiment participer à cette émission, surtout vous les femmes, parce que ce sujet vous intéresse, ce sujet vous concerne, vous n'avez qu'à composer le 081-890-6315, le 081-890-6315, ou nous écrire à l'adresse internet pa@radioocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Marie-Josée Ngalula. Donc on a pu avoir notre... Non, c'est une autre Marie-Josée Ngalula. Elle nous appelle à partir de Mbujimayi. Bonjour.
Oui, Madame Marie-Chantal Omba.
Oui, dites-nous un peu à Mbujimayi si vous connaissez ce genre de violence, n'importe quelle forme de violence sur les femmes et la jeune fille.
Bon, madame, j'ai recapé difficilement, je ne sais pas ce qui se passe.
Oui, est-ce que c'est possible, parce que nous aussi, nous entendons un bruit autour de vous. Donc, si on ne vous capte pas tellement bien, mais si c'est possible que vous puissiez d'abord vous déplacer, soyez à un endroit assez calme, ce qui nous permettra qu'on ait une meilleure communication, moi et vous. Madame Marie-Josée Ngalula.
Allô, madame.
Est-ce que c'est possible que vous puissiez vous déplacer parce qu'il y a tellement de bruit autour de vous? Nous allons essayer un endroit assez calme, ce qui nous permettra de mieux communiquer.
Ok, mais là, je suis dans un endroit calme.
D'ailleurs, on le sent directement parce que la qualité de son...
Non, madame, je suis en ligne, ne coupez pas, s'il vous plaît.
Non, on ne va pas couper, madame. Parole aux auditeurs est là pour vous, pour qu'on puisse vous écouter. Aujourd'hui, nous parlons de différentes formes de violences faites sur la femme et la jeune fille, en rapport, bien sûr, avec la résolution 13-25 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui préconise la participation de la femme dans la prise de décision, dans la résolution et la prévention des conflits, aussi dans la consolidation de la paix. Tout cela, Marie-Josée, je suis en train de vous poser une question. Est-ce que Mbujimayi, vous connaissez aussi ce genre des formes de violence sur la femme et la jeune fille?
Et moi, personnellement, je n'ai jamais assisté à un cas de violence qui est fait à la femme. Mais du moins, dans notre parcelle, chez nous, il y a déjà eu des bandits qui se sont introduits trois fois. Ils nous ont volé les histoires dans la famille de mon grand frère. Bon, ce que moi je trouve, c'est une violence aussi. Mais bon, le vol, le banditisme, c'est une violence.
Il n'est pas spécifique à la femme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cela, Mbujimayi, des violences spécifiques sur la femme, sur la jeune fille, parce qu'elles sont du sexe féminin?
Oui, j'ai déjà entendu parler de ça, mais je n'ai pas encore vu ça. Ce que moi je connais, ce que moi j'ai déjà vu, ce que moi j'ai déjà vu avec mes propres yeux, c'est les voleurs qui se sont introduits pour voler. Bon, c'est une sorte de violence parce qu'ils ont fait cette énorme de violence.
Le banditisme.
Ouais. Alors, moi je peux préconiser comme solution, moi je trouve qu'il faut organiser la police. Parce que la police, si elle est bien organisée, elle peut sécuriser la population.
Mais aussi, il ne faudrait pas oublier qu'on ne peut pas avoir un policier pour chaque personne. C'est vrai que la police est là pour assurer l'ordre public, protéger les personnes et leurs biens, mais sans oublier aussi que nous aussi, à notre niveau, nous devons prendre aussi certaines mesures à ne pas oublier. Bien sûr qu'à d'autres niveaux, il faudrait nécessairement que la police puisse nous sécuriser. Mais Marie-Josée, j'espère que vous êtes toujours en ligne.
Oui, c'est toujours en ligne.
Au-delà de ces cas de banditisme, concernant par exemple les viols sur les petites filles, concernant les tortures dans les prisons sur les femmes parce qu'elles sont femmes, si cela existe chez vous, est-ce que vous avez d'autres propositions?
Bon, d'autres propositions. À mon niveau, je n'ai pas de solution. Pour moi, je pensais que pour sécuriser la population, il y avait la police. Et puis ici chez nous, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas, de route pour que quand il y a un problème, qu'on puisse intervenir rapidement. Bon, pour moi, il mettait la police parce que moi, en tant que femme, par exemple, si il y a un viol à côté de moi, qu'est-ce que moi je peux faire? Comment est-ce que moi je peux réagir? Je ne suis pas assez forte pour faire face à un homme ou bien à un bandit. Donc il faut un service organisé pour pouvoir trouver une solution.
Voilà, autant de questions que vous posez. Vous posez des questions pour savoir ce que vous pouvez faire si en face de vous on est en train de violer une femme. Vous dites que vous vous sentez vraiment impuissante. Merci Marie-Josée Ngalula pour votre intervention. Bonjour Adrien.
Oui, bonjour.
Adrien, vous êtes à Kananga. Dites-nous, est-ce que vous connaissez des cas de violence faites sur la femme parce qu'elle est femme?
Oui, c'est vrai, vous l'avez dit, nous savons très bien que Kananga, c'est la République démocratique du Congo, c'est-à-dire toutes les réalités qui se passent en RDC, Kananga n'est pas épargné. Donc, les femmes connaissent des violences ici. Donc, en cascade, même, je peux vous dire, parce que il y a beaucoup de bandits, vous l'avez appris. Le gouverneur était à Chikapa pour lutter contre ces gens-là. Donc, ici, sur place à Kananga, il y a le bandit, il y a certaines personnes, donc, qui résonnent bien, mais qui se plongent aussi dans des violences comme ça faites aux femmes.
Donc, est-ce que ces bandits s'attaquent uniquement aux femmes? Parce que c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, les violences faites sur la femme. Est-ce qu'il y a des bandits spécifiques qui s'attaquent qu'aux femmes?
Oui, Marie, vous devez savoir que lorsque un bandit veut attaquer, c'est vrai, s'il croise un homme, il a deux possibilités de l'abattre, ou bien si cet homme-là a de l'argent, il peut donc compenser avec l'argent. Mais une fois que le bandit tombe sur une femme, donc c'est difficile de voir ce bandit-là tuer. Donc la première des choses d'abord, ils vont chercher à commettre des bêtises. Donc c'est récurrent ici, c'est récurrent à Kananga, parce que devant un homme, l'homme peut résister, mais la femme peut vraiment, bon, permettez-moi les termes, en tant qu'être faible, bon, la femme n'a pas du tout de force pour réagir directement. C'est pour cela, donc ces bandits-là font beaucoup de choses sur des femmes.
Et qu'est-ce que vous préconisez pour pouvoir réduire ces genres de violences?
Allez, vous devez savoir que la sécurité des choses et des personnes sont vraiment des tâches régaliennes, vraiment d'un État. Et lorsque ça se passe comme ça, moi je pense que le gouvernement congolais devait vite organiser la police, la précédente auditeur l'a dit, et auditrice, parce que vous devez savoir que lorsque la police est bien équipée, lorsque la police est bien en place, je pense qu'elle pourra mettre vite la main sur ce bandit-là. Mais ici au Congo, nous voyons que c'est le contraire. Vous voyez que la police protège les gens, et c'est cette police-là qui rançonne, c'est cette police-là qui tracasse, c'est cette police-là qui insécurise même la personne, et donc la population. C'est pour cela que c'est très difficile. Et dans certains quartiers ici à Kananga, il y a le chef quartier qui demande même à la population de se prendre en charge, c'est-à-dire lorsqu'on voit crier, il y a un violeur, il y a un voleur, il faut vraiment mettre la main sur ce monsieur-là, parce que la police patrouille, la police passe par là, juste après le passage de la police, vous entendez que non, il y a des crimes, il y a des forfaits, il y a des meurtres, il y a des viols qui sont perpétrés. Donc je pense que la première des choses d'abord, il faut équiper et former valablement la police.
Merci Adrien pour votre intervention, vous êtes à Kananga. Bonjour Odon. Odon? Odon nous appelle? Oui, Odon, vous êtes à Mbandaka, c'est dans la province de l'Équateur. On vous écoute, Odon.
Oui, Madame Chantal, je crois les problèmes liés aux violences, comme vous les évoquez aujourd'hui, moi je pense que c'est d'abord un problème de l'égalité de notre pays. Et au moment où je vais prolonger bien sûr les codes pénales congolais, et dans les codes pénales congolais, il y a également des dispositions concernant, par exemple, les matières liées aux violences sexuelles. Mmh. Et s'il y avait l'inviolabilité des lois dans notre pays, loi, restons là.
En tout cas, Odon, on a un problème de liaison. Vous parlez des lois qui régissent notre pays, mais il faudra aussi signaler qu'il y a déjà une loi sur les violences sexuelles pour pouvoir protéger la femme et la jeune fille, une loi qui a déjà été promulguée ici en RDC. La réalisation va essayer de pouvoir vous recontacter. Peut-être que la qualité de son sera meilleure, comme ça vous pourrez donner vos propositions concernant ce sujet sur les violences faites à la femme et sur la jeune fille et comment réduire ces violences.
Parole aux auditeurs.
Madame Séraphine Malala, nous vous avons gardé en ligne parce que vous connaissez bien ce domaine, vous êtes activiste des droits de l'homme, vous travaillez avec la femme dans la promotion des droits de la femme. Vous avez suivi nos auditeurs, la plupart reviennent sur le rôle de la police. Est-ce que vous pensez que la police a un rôle spécifique pour pouvoir protéger les femmes et la petite fille contre les violences? Madame Séraphine Malala. Nous avons aussi perdu Madame Séraphine Malala. Nous avons essayé de pouvoir la recontacter pour qu'elle puisse nous donner aussi son avis, nous expliquer ce qu'elle pense parce qu'elle est active dans ce domaine. Elle connaît très bien comment ça se passe. Elle est ici à Kinshasa. Aujourd'hui, votre émission Parole aux auditeurs, l'émission 100% interactive de Radio Capi est consacrée à la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU. Une résolution adoptée en octobre 2000 qui préconise en fait la participation de la femme dans la prise de décision, dans la résolution, la prévention des conflits et dans la consolidation de la paix. Et aujourd'hui, nous échangeons spécifiquement sur les dispositions de la résolution qui exhorte aux États membres et les parties en conflit, si c'est dans un pays qui connaît la guerre, à prendre des mesures concrètes de protection des violences faites sur le genre. La question pour lancer notre discussion, selon vous, que faire pour mettre fin aux différentes formes de violence sur la femme et la petite fille? Nous attendons toujours notre invitée. Il s'agit de Madame Joséphine Ngalula. Elle est militante de la promotion des droits de la femme. Et si vous voulez participer à cette émission, vous avez deux possibilités. Vous pouvez nous contacter au 081 890 63 15 ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiookapi.net.
Radio Okapi est ici avec vous sur la solution. En direct avec toutes les types de paroles aux auditeurs. Paroles aux auditeurs. Parler, nous transmettons. Proposer, nous discutons. Paroles aux auditeurs. Le lundi à vendredi à 11h et mercredi à 10h. Heure de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Okapi.
On était sur Radio Okapi dans son émission Parole aux auditeurs. Nous parlons en fait des violences faites sur la femme et la jeune fille à travers cette résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, cette résolution qui a plusieurs dispositions dans la protection des civils, la participation des femmes sur un pied d'égalité, les droits de l'homme et droits internationaux humanitaires, le maintien de la paix, soutenir les initiatives de paix par des groupes locaux des femmes, aussi lutter contre les violences faites sur la femme et la jeune fille. On a pu recontacter Madame Séraphine Malala. J'espère que vous êtes au bout du fil, Madame.
Bonjour.
Oui, encore une fois, on a pu vous recontacter. On est en train de parler des violences faites à la femme. Nous avons eu plusieurs auditeurs qui sont intervenus, qui ont donné leur avis. En gros, ils pensent que la police a vraiment un rôle à jouer dans la prévention et la lutte contre ces violences faites à la femme. Quel est votre avis, madame? En tout cas, là, nous avons un problème autour de vous. Il y a tellement de bruit. Si c'est possible que vous puissiez un peu vous déplacer, comme ça on pourra bien échanger, parce qu'il y a tellement de bruit autour de vous, le temps que la réalisation puisse essayer de pouvoir vous recontacter, que puissiez être un endroit assez calme pour que nous puissions échanger sur cette question. Et nous saluons aussi l'arrivée de Madame Joséphine Ngalula qui vient de faire son entrée dans ce studio.
Radio Okapi est ici avec vous sur la solution. En direct avec toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs. Parler, nous transmettons. Proposer, nous discutons. Parole aux auditeurs, le lundi à vendredi à 11h et mercredi à 10h. Et on décide à ça. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Okapi.
Enfin, Madame Joséphine Ngalula est arrivée. Bonjour, Madame.
Bonjour, Madame la journaliste.
Pas facile, hein, aujourd'hui, avec les embouteillages.
Je suis pas de 20 km qui fait, alors là, c'est un espoir. Cela ne tient une femme là pour faire rire.
Voilà, les auditeurs sont là et ils étaient impatients d'avoir quand même votre avis, hein, pour savoir ce que vous pensez sur la question. Aujourd'hui, nous parlons des violences qui sont faites sur la femme et la jeune fille à travers, bien sûr, la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU qui préconise en fait la participation de la femme dans la prise de décision, dans la résolution, la prévention des conflits et dans la consolidation de la paix. Madame Joséphine, en fait, déjà des auditeurs sont intervenus pour donner leur avis parce que la question principale de notre émission, c'est comment réduire ces violences qui sont faites sur la femme et la jeune fille. Une question assez difficile. Il y a eu des auditeurs qui ont témoigné en disant qu'effectivement, il existe des violences qui sont faites sur la femme et la jeune fille. De Mujimaï, nous avons eu un auditeur. Nous avons aussi une auditrice. Et voilà en fait où nous en sommes. La plupart ont souhaité que ce soit la police qui fasse un plus grand effort pour pouvoir sécuriser les personnes, surtout la femme, contre ces violences. Quel est votre avis, madame?
Mais disons que avant de commencer, bien avant de donner mon avis, je crois que les questions des violences touchent aux questions relatives à la violation des droits humains. Et là, nous voulons saluer la mémoire de notre confrère Floribert Semeya. Si j'avais suffisamment le temps, j'allais vous demander qu'on puisse observer ne plus qu'une minute de silence à son mémoire, parce que c'est un vaillant défenseur des droits humains, par là les droits de la femme. Nous l'avons même primé, nous, le réseau Action Femmes. Il est parti avec notre reconnaissance. Voilà, c'est pourquoi je voulais vraiment, avant toute chose, saluer sa mémoire et voilà un peu.
Sa mémoire, c'est vraiment une perte pour non seulement les défenseurs des droits de l'homme, mais pour aussi toutes les personnes qui l'ont connu, notamment sa famille, à qui nous adressons nos condoléances.
C'est bien à partir, la lutte continue, nous défendrons les droits de l'homme jusqu'à perdre la nôtre aussi, jusqu'à ce que l'on comprendra. Sur ce qui est des violences faites à la femme et à la jeune fille, comment réduire ces violences? Je crois que c'est un problème qui demande un travail en synergie. C'est-à-dire quoi? D'abord, c'est une responsabilité qui part de la sécurité. Vous venez là de parler de la 1325. Les violences faites à la femme, c'est une conséquence de la sécurisation qui n'est pas assurée. C'est-à-dire quoi? Ceux qui commettent les violences à l'égard de la femme sont dans, ils viennent de partout. Et la sécurité des personnes et de leurs biens dépend de la punition ou bien de la sanction ou bien de la répression de ces violences. Ceux qui ont eu à commettre les violences à l'égard de la femme, surtout les violences sexuelles, même s'ils sont connus, ils sont en liberté. Il y a d'autres qui sont arrêtés et quelques temps après, on les retrouve dehors au nom de la libération conditionnelle. Et il y a aussi un vrai problème, les femmes qui sont d'accord pour se plaindre par rapport aux violences dont ils sont victimes, ils sont, disons, confrontés à plusieurs problèmes. Problème des frais de justice. problème d'accompagnement par rapport aux cliniques juridiques qui travaillent. Voilà un peu, il y a plusieurs difficultés qui font que les violences faites à la femme restent un problème dès lors. Et ces problèmes, il trouvera des solutions que si et seulement si la sécurité est assurée et si et seulement si la police et autres services jouent effectivement leur rôle comme il se doit.
Mmh. Et c'est à travers en fait la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, mais pourquoi maintenant qu'on constate des manifestations, pourtant cette résolution a été prise depuis 2000, mais c'est aujourd'hui, au courant du mois passé et ce mois-ci, que nous constatons qu'il y a comme un éveil à pouvoir sensibiliser cette résolution. Pourquoi maintenant?
Disons que vous avez peut-être constaté, parce qu'on a tous négatifié, mais la résolution 1325 a déjà été mise en œuvre depuis dès le reste dans notre pays par les organisations de défense des droits de la femme. Nous l'avons utilisée lorsque nous, les réseaux Action Femmes, en 1998, il y a eu, conflit armé. Nous avons présenté ce qu'on a appelé l'agenda de la paix pour la femme. Là, c'était en 1998, la résolution n'était même pas encore prise. Nous avons utilisé la résolution 1325 pour amener les femmes au dialogue intercongolais. Là, c'était avec notre plateforme OPA, Women as Partners of Peace in Africa. Nous avons utilisé la résolution 1325 en tant que cause commune pour réclamer la participation de la femme en ce qui concerne la représentativité de la femme. Nous avons utilisé la résolution 1325 lors de dialogues intercongolais pour amener les femmes à participer à ce dialogue. Et voilà comment nous avons utilisé cette résolution. Même récemment, nous avons utilisé cette résolution pour la croisade d'épée lorsqu'il y a eu conflit armé lors de la publication des premiers résultats en tant que membre de CARCO. Voilà un peu comment nous avons utilisé cette résolution. Mais si nous en parlons aujourd'hui avec acuité, c'est parce qu'il y a finalement un plan d'action national sur la résolution 1325 qui est enfin là. Mm-hmm. Et ce plan d'action national a connu les concours de toutes les parties en présence, c'est-à-dire le gouvernement, la société civile et les organisations, du système des Nations Unies et les organisations internationales. Mm-hmm. Et à ce sujet, comme c'est la MONUC qui a porté, ce travail, comme c'est la MONUC de cet office gender qui a porté ce travail, et c'est ainsi qu'il y a eu plus d'écho. Mais cette résolution a toujours été portée.
On a l'impression qu'il fallait un financement. Est-ce que c'est par manque de financement qu'on n'avait pas autant d'écho? Est-ce qu'une résolution si importante, faut-il attendre un financement pour en faire large écho?
Ce n'est un secret pour personne. Dans notre pays, même les budgets nationaux attend des financements quelquefois de l'extérieur. C'est ça la difficulté que nous avons. Cette résolution a bel et bien existé depuis longtemps, mais pour produire les plans, il a fallu un cadre, il a fallu rassembler les activistes de droits de la femme, il a fallu rassembler le groupe de genre, des différents ministères et tout. Et on attend l'argent toujours de quelque part, toujours des bailleurs. Voilà un peu la difficulté que nous, les défenseurs des droits humains de la femme, nous déplorons. Et il a fallu cet appui-là pour que cette résolution, enfin, puisse avoir un plan d'action, être produit.
Donc, il faudrait avoir un autofinancement, si on peut l'appeler comme ça.
C'est une maladie qui doit être guérie. Et je crois qu'avec le plaidoyer, le ministère du plan qui était là lors de la cérémonie de Open Day, et je crois que il y a des leçons à tirer pour que les gouvernements puissent prendre quand même en charge ce qu'il y a du programme aussi.
Et vous, ONG,
nous, ONG, nous avons fait depuis 98, je vous ai expliqué comment nous avons commencé à participer dans la question de la paix dans notre pays, dans la question de la recherche de la paix, de la sécurité dans notre pays, par les différentes actions. Je viens de vous énumérer les différentes étapes. Voilà.
Mais qui ont eu des fruits assez... parce que vous avez pu tirer les conséquences et aujourd'hui, quand même, il y a vous arrivez à voir la finalité de ce que vous êtes en train de rechercher.
La finalité n'est pas encore là. Avoir les plans d'action sur papier, c'est une chose. Et voir ces plans d'action être financés, effectivement, effectivement, c'est en est une autre. Je crois que nous ne pouvons pas encore nous frotter les mains. Les chemins restent à parcourir.
Nous allons prendre aussi les avis de nos auditeurs qui sont au bout du fil, vont s'exprimer à propos de la question du genre, surtout des violences faites à la femme et à la jeune fille.
Parole aux auditeurs.
Bonjour, docteur Samuel.
Oui, bonjour, madame.
Oui, docteur, vous êtes à Béni. On vous écoute. Quel est votre avis? Est-ce que vous vivez aussi ces violences chez vous à Béni?
Oui, madame, je suis d'abord content de passer à la radio Katou. Et puis, je suis content d'arriver à ce quartier de notre indépendance. Tout le monde est un intellectuel, sortant d'une couche sociale en termes de marginalité et stigmatisée, parlant du peuple cuisinier. Donc, moi, je vous parle aussi, je suis un médecin cuisinier. Donc, je dédie ça au président de la République et à sa femme et même à tous les cuisiniers. En ce qui concerne la violence faite aux femmes, bon, nous savons que c'est devenu comme monnaie courante vraiment ici en République démocratique du Congo. Malheureusement, ceux qui la commettent ne s'inquiètent presque de rien. Bien sûr, il y a plusieurs sortes de violences, comme madame, notre invité, venait de le dire. Ça, on sait que peu de femmes qui sont en train d'être violées, elles arrivent à dénoncer ces violences-là. Bon, madame, vous suggérez vraiment d'être un peu très limité aux violences faites aux femmes et aux filles, qui concernent les femmes qui venaient et les filles qui venaient. Vous dites que c'est alors grave, car ces dernières n'ont même pas où elles peuvent les dénoncer. Hein. Elles n'ont pas cette bouche-là, tout ce que vous écoutez, puis considérez, pour qu'on puisse prendre leurs problèmes en charge. Et cela, souvent, la banque apporte vraiment une aperçu. On a déjà eu des cas vraiment, personne ne court même derrière ces violeurs-là. Bon, je passais des points à l'aide pour le président, à l'aide de protection, madame. Je sais que. En fait, avant, on croyait que la violence sexuelle n'était que celle que les violences étaient celles qui étaient limitées aux violences sexuelles. Mais aujourd'hui, vous savez que c'est un peu devenu presque élargi. Alors, ce que nous demandons à l'État et les ONG de développement, qu'ils puissent un peu informer aux gens, même les femmes, les différentes formes de violences. Il y a des femmes là qui ne savent même pas les différentes formes de violences. Qui le sont sensibilisées. Pour qu'elle sache dénoncer ce dont elle est victime vraiment. Pour la deuxième proposition, je demanderais que l'État puisse donc punir les violeurs là. Car souvent, il y a parfois des arrangements entre les familles, donc entre la famille des violeurs et la famille de la violée. Cela peut passer comme ça, ma partie, sans que cela puisse être dénoncé et que l'État ne sera même pas faire pour que. À ce moment-là, si le temps prenait ça en considération, on devait punir les violeurs, et là, ça donnerait un bon exemple.
Merci.
Et puis que le temps renforce vraiment les mesures punitives pour concerner donc aux violeurs, et que si quelqu'un arrivait à tomber aussi dans ce genre de problème, tout ça vraiment punir, que ça puisse décourager les autres de faire ces justices.
Merci beaucoup, docteur Samuel. Vous êtes à Béni, vous dites que vous-même, vous êtes. Pygmées et vous espérez qu'on puisse mieux encadrer en fait les femmes pygmées pour que leurs droits soient vraiment protégés et vous décriez qu'il n'y ait pas assez de protection de ces femmes pygmées qui aussi sont violentées. Vous souhaitez qu'il y ait des punitions exemplaires sur les violeurs et aussi la vulgarisation de la loi sur les violences faites aux femmes. Bonjour Alain. Alain, est-ce que c'est possible que vous puissiez, vous puissiez d'abord éteindre votre poste récepteur qui est juste à côté de vous. Comme ça, on aura une meilleure communication parce que là, il y a un retour.
Ok, ça va.
Oui, Alain, on vous écoute.
Ok, mon avis, c'est quoi? Ici, chez nous, à Dungu, il y a des gens qui étudient sur les petites filles de 13 ans avec de l'argent. Après avoir fait, donc, donner la grossesse, après, vraiment, les autorités de chez nous ne se basent pas sur les problèmes de violence sexuelle ici. Parce que souvent, on a eu des cas, il y a quand même des jeunes filles, vraiment, qui sont influencées par de l'argent, qui sont influencées par des garçons de Gaïa. Bon, vraiment, après cela,
les autorités de chez nous ne se basent pas sur cela. Je voudrais me demander, donc, pour le problème des droits de l'homme, les droits de l'homme de chez nous ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces gens puissent être au moins sanctionnés?
Là, il y a tout un avion qui passe à côté de vous. Donc, c'est ça même le direct. On vous a perdu à là, mais quand même, on entend l'avion qui est passé. Vous avez posé une question pour savoir comment faire si chez vous, il n'y a pas d'ONG de défense des droits de l'homme pour que les personnes puissent connaître leurs droits et comment on peut promouvoir en fait ces droits. C'est un peu ça votre question. Madame Joséphine Ngamula va pouvoir y répondre. Merci de votre participation, Alain. Vous êtes à Dungu. Bonjour, Hélène.
Bonjour, madame.
Vous êtes à Ouvira. On vous écoute. Est-ce que chez vous, vous connaissez aussi des problèmes de violence faites sur la femme et la petite fille?
Merci beaucoup. Et moi, comme vous l'avez dit, madame Hélène Morisseau, membre de la.
S'il vous plaît, madame, est-ce que vous pouvez un peu vous déplacer parce que la communication n'est pas toute vraiment bonne comme ça.
Si oui, vous êtes déplacée. Je sais que je suis madame Hélène Richon.
Oui.
Je suis membre de l'association des juristes du Sud-Kivu.
Oui.
Et nous travaillons un peu dans la protection des droits de la femme. Et j'ai suivi au fait tout ce qu'a dit les autres qui sont intervenus. Et moi, je me dis que la première chose à faire, c'est d'abord informer la femme de ses droits. Parce qu'on a constaté que la femme elle-même n'est pas informée de ses droits. Et parfois, on a l'impression que la femme elle-même intervient dans ces genres de violences. Ou dans des familles, si on voit par exemple les droits à l'éducation de la jeune fille, quand vous entrez dans des milieux ruraux, vous allez trouver que ce sont les mêmes femmes qui disent que ce sont les garçons qui doivent étudier et non les filles. Donc il faut que la femme soit d'abord informée de ses droits pour qu'elle puisse elle-même protéger ses droits. Ensuite, il faudra qu'on puisse voir dans quelle mesure on doit suivre les procès avec une certaine diligence. Parce que très souvent, les procès craignent. Et c'est comme ça qu'on assiste à des arrangements amiables, surtout dans des cas de violences sexuelles. Et quand il y a les arrangements amiables, c'est difficile que la femme puisse encore continuer son procès. Parfois, les organisations qui luttent pour les droits de la femme sont obligées d'abandonner juste parce que la victime s'est désistée. C'est pourquoi il faut en fait sensibiliser la femme.
En tout cas, Madame Hélène, c'est difficile de pouvoir vous suivre correctement. La liaison s'est d'ailleurs détériorée, mais quand même, le peu qu'on a pu suivre, vous pensez qu'il faudrait informer les femmes sur leurs droits, essayer de lutter contre l'impunité, qu'il y ait des procès qui arrivent au bout, qu'on puisse vraiment punir en fait les violeurs et éviter en fait ces arrangements à l'amiable en cas de viol. Merci Madame Hélène Molisseau. Vous êtes à Ouvira. Nous allons donner la parole à notre invitée, Madame Séraphine Ngalula. Vous avez Joséphine plutôt. Parce qu'on avait juste Séraphine Malala juste au début, mais on n'a pas pu même la recontacter. Elle était déjà en train de nous donner aussi son avis et réagir par rapport aux auditeurs, mais jusque-là, on n'arrive toujours pas à la recontacter.
Donc, c'est chargé des programmes de réseau Action Femmes.
Ok. Donc, vous êtes là, Madame Joséphine Ngalula. Vous avez suivi nos auditeurs, plusieurs préoccupations, mais dites-nous un peu, Madame, par rapport à la résolution 1325 du Conseil du Conseil de sécurité de l'ONU, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont palpables, qui sont concrètes pour pouvoir lutter contre ces violences faites sur le genre?
Oui, Madame Marie-Chantal, je crois que je vais répondre à la question que tu viens de me poser en dernier lieu. Je m'en vais d'abord réagir par rapport à la préoccupation du docteur Samuel de Béni, qui a parlé des préoccupations des femmes pygmées. Apparemment, elle dit que ces femmes sont des laissées pour compte. On dirait que dans la programmation des activités de lutte contre les violences faites à la femme, ces femmes sont des délaissées pour compte. Je crois que nous avons les ONG qui sont à Béni, qui travaillent, et le mieux serait de donner les contacts de ces ONG auprès de notre camarade de Dr Samuel pour que ces femmes-là puissent avoir accès à l'information et aux activités de renforcement des capacités ainsi que la civilisation. Et aussi les problèmes des femmes pygmées en ce qui concerne la dénonciation et tout, c'est un problème lié à la culture et au tabou qui fait qu'il y a des cas-là qui sont peut-être passés, qui se passent, il y a des cas de violence qui se produisent, mais par rapport à la culture, le courage de dénoncer n'est pas au rendez-vous. Et aussi, pour ce qui est de l'arrangement à l'amiable, il a évoqué ça, il y a aussi notre intervenante de tout à l'heure qui a aussi parlé, Hélène, qui a parlé des arrangements à l'amiable. Moi, je crois que c'est un vrai problème qui relève de la justice qui est quelquefois défaillante en ce qui concerne les dédommagements de ceux-là ou bien de celles-là qui se sont retrouvés devant la justice et à la fin, ils n'ont pas été dédommagés. Et alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que les parents des victimes, si la victime c'est une petite fille, les parents préfèrent qu'il y ait des arrangements là pour vivre, qu'ils puissent se retrouver ou bien que la fille puisse quand même être, disons, bénéficier d'une certaine réparation. Donc, le vrai problème chez nous, quand on va en justice, en fin de compte, on ne connaît pas les nombres de personnes qui ont été dédommagées, ceux qui ont bénéficié de la réparation. Et pour ce qui est de notre ami Alain, bon, lui, parlait à Dungu, là, il est en train de dire, c'est l'argent qui fait défaut. Les jeunes filles sont soudoyées par les billets des banques, c'est ce qui fait qu'il y ait des violences. C'est vrai, les enfants, ce sont toutes personnes c'est toute personne qui a moins de 18 ans. Et si on parle que si on dit que ces enfants-là sont plus attirés par l'argent et les papas d'un certain âge courent avec les filles de 13 à 14 ans, je crois que c'est un problème qui revient aussi à la responsabilité revient non seulement aux parents, à l'État congolais et aussi aux organisations. La responsabilité partagée. Moi, je me dis qu'il y avait la police des mineurs à l'époque. Où est passée cette police des mineurs? Pourquoi ne pas réhabiliter cette police des mineurs? Il y a aussi un vrai problème par rapport à la pauvreté. Les parents sont-ils payés comme ils se doivent? Et s'ils sont payés, c'est quel salaire? Est-ce que le salaire permet d'encadrer les enfants comme ils se doivent? Est-ce que les enfants vont à l'école comme ils se doivent? Alors que nous sommes signataires de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui exige qu'il y ait quand même la gratuité de l'enseignant. Et là, ça pourra nous permettre d'éviter tout ce que nous déplorons aujourd'hui. Un enfant qui ne va pas à l'école, qui a 12 ans, qui a déjà des seins. Pour cet enfant-là, qui vit dans la misère noire, et là, les parents ne sont pas capables de quoi que ce soit, cet enfant est à la merci de n'importe qui peut s'amener avec l'argent. Je crois que la grande part des responsabilités revient à l'organisation de la société par rapport à cette question.
Mais néanmoins, pendant un certain moment, à une époque, il y avait la formation des policiers pour une police des mineurs dans certaines provinces, peut-être qu'ils ne sont pas assez nombreux, mais revenons à la résolution.
Voilà. Par rapport à la résolution 1325, qu'il y a des dispositions dans notre plan. Parce que nous, là, les réseaux Action Femmes, à travers moi, Mme Galla, nous avons travaillé dans la commission, justement, sur les violences faites à la femme. Et nous avons prévu un certain nombre d'activités qui sont, je peux les énumérer rapidement, il y a des activités relatives au renforcement des capacités, c'est-à-dire former les gens pour pouvoir leur donner les moyens de lutter contre les violences, les prévenir. Il y a les activités relatives à la sensibilisation. Il y a des activités relatives à la vulgarisation et des activités relatives au plaidoyer, ainsi que les activités relatives à la prise en charge des victimes de violences, ainsi que des enfants issus de viol. C'est tout un programme qui est chiffré. Là, je peux vous donner un chiffre. Nous avons travaillé par rapport à l'idée de 26 sites que nous comparions déjà aux 26 provinces. Et là, nous avons un budget prévisionnel de 26 millions.
Donc,
26 millions de dollars.
Donc, s'il n'y a pas d'argent, on ne va rien faire, apparemment.
Oui, on peut se limiter juste à des activités de proximité, mais ça ne va pas porter tellement parce que ce sont des activités qui vont se limiter à un carré bien défini et ça ne pourra pas vraiment avoir de l'impact comme il se doit. Donc, voilà un peu. Pour ce qui est, par exemple, de notre amie Hélène qui a parlé de
de manque de diligence dans le traitement des dossiers des cas de violence faites à la femme. Moi, surtout en ce qui concerne les violences sexuelles, il y a le code des procédures qui est là, qui exige, disons, qu'il y ait célérité dans le traitement des cas de violence sexuelle. C'est seulement la non-application de ce code qui fait problème.
Nous allons aussi écouter d'autres auditeurs qui veulent donner aussi leur avis et s'exprimer.
Ok. Bon, capi.
50 ans d'histoire. Ça se raconte sur Radio 4.
Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Oui, Michel, vous êtes à Bougnan, on vous écoute. Quelles sont vos propositions pour pouvoir lutter contre ces violences faites à la femme et à la petite fille?
Ok, ma proposition serait peut-être. Demain d'abord, vous remarquerez avec Bougnan ici. Les taux de la violence faite à la femme s'est fait élevé par rapport à d'autres secteurs. Vu les événements qui s'est passé à Nitouri, c'est ça qui cause qu'on connaît un peu assez de la violence. Mais ma proposition serait à ce que l'État puisse prendre d'abord à charge, mais je ne le ferai pas que l'État fasse. À mon avis, je pourrais dire aussi, je laisse aussi cette tâche aussi aux parents de Nitouri, parce que vous remarquerez avec moi qu'ici à Nitouri, c'est devenu une chose qui se passe pour un hommage et un intérêt. Mm-hmm. Parce que vous remarquerez avec moi, une fois la violence est faite ici, ça n'arrive pas au niveau des ONG de défense des droits de l'homme.
Il y a plus des arrangements à l'amiable.
Hein?
Il y a plus de des arrangements à l'amiable.
Il y a beaucoup des arrangements à l'amiable, mais cet arrangement est toujours en collaboration peut-être avec les numéros 1 des parquets parfois, mais ils ne disent pas que cette violence puisse se limiter, mais ils disent quand même des intérêts qui sont en dommage, qui sont extrêmement chers.
Mais ça ne profite pas généralement en fait à la victime.
Oh, la victime ne profite rien, mais vous remarquerez avec moi que c'est ses parents qui profitent, parce qu'ils vivent la pauvreté, le manque des activités qui sont sur le terrain ici. Alors les parents des victimes font en sorte que la violence faite dans la femme et surtout aux enfants mineurs ici est devenue quand même comme une activité de commerciaux.
Merci Michel pour votre intervention. Nous écoutons aussi Freddy. Il y a tout ça. Bonjour, docteur Freddy.
Bonjour, madame.
Et on vous écoute. Quelles sont vos propositions?
Ben, les propositions, d'abord, avant de les donner, on doit tous admettre que ça reste un sujet complexe, parce que là-dedans, on a des cas de violence faites à la femme occasionnées par exemple la guerre qui est à l'Est. Ça, c'est un côté de la chose qu'il faut aborder autrement.
Mmh.
Et ensuite, on a des cas de violence faites à la jeune fille, parce qu'on voit à Kinshasa et partout ailleurs. Donc, pour le premier volet de la question, tout passe d'abord par la pacification, à mon avis, de l'Est du Congo. C'est le cas de la transformation de la Monique à Monisco. J'espère qu'avec cette stabilisation, la situation sera endiguée. Maintenant, pour le deuxième volet de la chose, ça devient un peu plus compliqué. On ne doit pas laisser à la police elle faire le travail. Parce que quand on dit police, ça veut dire elle établit les faits, elle arrête les gens, point, ça s'arrête. Mais la procédure judiciaire doit aller beaucoup plus loin. Donc il faudra l'implication et de la police, des ONG de défense des droits de la femme, et aussi le ministère public, le procureur, tout le monde s'implique, parce qu'on a déjà vu beaucoup de cas où le violeur commet son fait, il est arrêté, 48 heures après, il est dehors, et donc ce sont des situations beaucoup plus traumatisantes.
Merci beaucoup, docteur Freddy, pour votre intervention. Nous allons au centre du pays, à Kananga. Bonjour, Neville.
Bonjour, Marie-Chantal.
Oui, votre participation, votre préoccupation et aussi vos suggestions concernant la lutte contre les violences faites à la femme.
Oui, écoutez, les violences sexuelles faites à la femme, c'est un problème très complexe, Marie-Chantal. Il est aussi fondamental dans ce sens que il préoccupe notre attention. Vous savez, avec toutes les exactions qui se sont perpétrées à l'est du pays, c'est là d'abord la genèse. Et c'est pour cela qu'on a voté la nouvelle loi sur les violences sexuelles, qu'il y a beaucoup de dispositions, dont notamment celles relatives au viol, à la grossophobie, à l'harcèlement sexuel. Moi, je pense que Pour trouver des solutions par rapport à ces problèmes, il faut d'abord passer par une conscientisation. Et aussi, il faut que la femme et la jeune fille puissent prendre conscience en elles-mêmes. Parce que moi, je crois, beaucoup de gens sont en train de parler des violences en termes physiques. Il y a aussi des violences faites à la femme moralement. Alors, dès lors que la femme va comprendre que la féminité ne peut pas aussi la permettre à accéder à certaines fonctions par rapport à la résolution 1325, dans ces conditions-là, elle ne sera pas réhabilitée dans ses droits. Et si les violences sont en train de continuer, c'est parce que la femme elle-même ne sait pas se prendre en charge. Elle ne sait pas qu'elle est, elle est mère et c'est à partir d'elle qu'on peut encore bénéficier quelque chose. Donc, les solutions sont qu'il faut une conscientisation et aussi la participation de l'Est, comme le docteur venait de dire tout à l'heure. Lorsque le pays est dans l'insécurité, je pense que les violences ne vont pas prendre fin. Imaginez-vous, les militaires, lorsqu'ils font beaucoup de temps en brousse, ils peuvent sortir. À un moment donné, ils peuvent commencer à connaître des femmes en désordre. Les violences ne sont pas seulement les violences sexuelles, il y a aussi des violences psychologiques faites toujours à la femme. Par exemple, lorsqu'il faut accéder à un service, il faut certains critères qui ne permettent pas à ce que la femme puisse aussi travailler comme l'homme. Mes propositions, je le disais tantôt, que il faut nécessairement que la femme se prenne en charge. Il faut que les ONG des droits de l'homme ou des droits pour la protection pour la femme puissent aussi passer par une sensibilisation et qu'il y ait une prise de conscience par la femme elle-même en tant que personne pour pouvoir éradier toutes ces difficultés qui lui arrivent.
Oui, nous prenons Martin qui sera le dernier auditeur de notre émission. Il est à Bandundu. Bonjour.
Bonjour.
Oui, Martin, on vous écoute. Quelles sont vos propositions?
Bon, moi, par rapport à notre province, la province de Bandundu, à ce qui concerne les violences liées à la culture, moi, je pense qu'il faut sensibiliser plus. Parce que ici, chez nous, il y a un problème de madame pour faire des films. Il faut s'assurer plus les chefs coutumiers. Parce qu'ils sont vraiment porteurs de ces violences. Alors, moi, je pense qu'il faut vraiment beaucoup de sensibilisation et puis finaliser la loi sur la violence sexuelle dans notre milieu. C'est ça vraiment le problème qui la population ignore jusque-là.
Merci.
Ils ne comprennent pas, ils ne maîtrisent pas la matière de violence sexuelle. Voilà. Les pratiques qui se font ici avec les mariages forcés, vous verrez un papa de 30 ans, 40 ans marié, une jeune fille de 13 ans, et favorise ça.
Merci, merci Martin, pour votre intervention, lutter contre les mariages forcés, vulgariser la loi, et aussi essayer de parler un peu aux femmes, c'est un peu ça vos préoccupations. Merci pour vos propositions. Nous allons redonner la parole à notre invitée, Madame Joséphine Galoula. Encore une série d'auditeurs, il y a même un auditeur qui carrément pense que c'est la femme elle-même qui ne se prend pas en charge et qui n'est pas consciente de ce qu'elle doit faire pour lutter contre les violences.
Bien, disons que jeter la pierre sur la femme elle-même, c'est un problème qui a plusieurs facettes. La femme est victime d'abord de la formation. Elle est victime par les familles. Et je crois que les berceaux des violences faites à la femme, c'est la famille même qui est celui de base de toute une nation.
Donc, comment
nous traitons nos enfants-filles par rapport aux enfants-garçons dans nos familles? Vous êtes sans ignorer que l'enfant-fille, c'est la domestique de la maison. Quand ils reviennent tous de l'école, fille et garçon, c'est la fille qui en charge toutes les responsabilités. Et elle fait la petite maman quand maman est là ou bien quand même elle est absente.
C'est pas des prédispositions déjà?
C'est une conception culturellement construite et qui peut être changée. Je crois que tout part de là. Conscientiser la femme, c'est conscientiser d'abord papa et maman en tant que responsables. Et ensuite, on verra comment conscientiser la femme devenue femme, d'un certain âge, c'est-à-dire qui est déjà adulte ou bien qui est en train d'être adolescente. Mais le vrai problème doit se baser dans la maison. C'est ainsi que je réponds à tous nos auditeurs de revoir leur façon de traiter les filles et les garçons à la maison. C'est là le nœud du problème. S'il y a association des violences à l'égard de la femme à l'Est, je crois qu'on donne que ce qu'on a. Qui a donné l'éducation à tous ces violeurs-là? Papa et maman. Donc tout est parti de la maison. Il est vrai qu'il y a les conditions sociales et aussi l'impunité qui accentue cet état des choses. Et si nous nous regardons en face, je crois que la conscientisation de la femme doit vraiment alors inclure l'homme et la femme. C'est ainsi que nous, au réseau Action Femmes, nous avons d'abord dans notre composition, nous travaillons avec les hommes et les femmes. Il est vrai que c'est un réseau créé par les femmes pour défendre les droits de la femme, mais nous avons des acteurs principaux, et hommes et femmes. Nous travaillons dans cette optique-là pour justement corriger les inégalités sociales qui contribuent aux violences faites à la femme. La conscientisation de la femme, c'est une question d'éducation de base, c'est une question de formation, et une question des responsabilités de l'État, et une question des responsabilités des ONG aussi animées par les hommes, que des ONG animées par les femmes, et c'est une question de la communauté internationale, parce que notre pays est signataire de plusieurs conventions internationales, dont la célébration ou bien dont la 1325, qui est une résolution et qui interpelle notre État, dans notre État.
C'est un outil pour que les femmes puissent continuer à se battre. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission consacrée à la lutte contre les différentes formes de violence sur la femme. Merci Madame Ngalula d'avoir répondu à notre invitation. En fait, vous êtes présidente coordonnatrice du réseau Action Femmes. Nous disons aussi merci à Madame Séraphine Malala. Merci aux auditeurs, ceux qui sont intervenus et ceux qui nous suivent en FM ou connectés sur le site www.radiocapi.net. Nous retrouvons demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Ce sera le dernier de la semaine. Nous parlerons des derniers préparatifs avant la passation de l'examen d'État qui est prévu le lundi prochain, le 21 juin. La question, comment préparez-vous cette épreuve ou comment aidez-vous vos proches à passer cette épreuve? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant l'adresse internet ca@radiocapi.net. Merci et à demain.